Oui, alors donc je vais aborder la question en fonction de la commande qui m'a été passée en quelque sorte sur l'articulation entre enseignement professionnel et plus particulièrement apprentissage du métier et forme scolaire. Mais avant, je vais me présenter en quelque sorte et un petit peu qui je suis. Donc moi en fait je travaille en histoire, j'ai fait ma thèse en histoire sur l'orientation professionnelle entre 1900 et 1940, ce qui m'a conduit à m'intéresser à la psychologie et aux usages sociaux de la psychologie et notamment dans le système scolaire. Ce qui fait que moi je travaille en histoire, mais je travaille beaucoup avec des psychologues qui s'intéressent aussi aux questions d'histoire. Et donc dans ce cadre, dans le cadre du Centre de Recherche sur le Travail et le Développement, donc qui est un laboratoire de psychologie de l'orientation, de psychologie du travail et de l'ergonomie, on a mis en place un groupe de travail transversal qui porte plus particulièrement sur l'histoire de ces différentes problématiques. Alors, c'est mieux. Voilà. Donc notamment Henri Pierron qui en France est considéré comme le fondateur, grand psychologue expérimentaliste, le fondateur de la dimension orientation professionnelle institutionnalisée avec la création de l'INOP en 1928, dont je parlerai rapidement. Alors donc je me suis plié, si je puis dire, à la commande, s'agissant donc de la forme scolaire. Alors la forme scolaire, c'est un concept qui revient donc à Guy Vincent, qui est l'objet de beaucoup de réflexions, notamment chez les historiens depuis quelques temps. Peut-être parce que on est dans une période où cette catégorie qui semblait une évidence dans le pays de l'école élémentaire de Jules Ferry semblait de moins en moins justement évidente et par là même, ouvre vers des interrogations. Alors, moi, bien entendu, je ne suis pas spécialiste ni de l'histoire de l'enseignement primaire, ni de l'histoire au sens propre de l'enseignement professionnel, ni des lycées, du secondaire. Moi, je rattache la question de la forme scolaire à la manière dont les psychologues, dans les années 1950, vont entrer dans les centres d'apprentissage et les cours complémentaires, et commencer à réfléchir sur l'articulation entre enseignement général et apprentissage du métier. C'est donc à partir de ce questionnement que j'ai préparé mon intervention. Donc, je vais d'abord faire un retour, si je puis dire, sur un peu les questions qui se posent dans les années 50 et qui interviennent dans la manière dont les psychologues vont entrer dans ces nouvelles formes de scolarité. Ensuite, je m'intéresserai plus particulièrement à l'expérimentation de l'orientation éducative autour, bien sûr, de la figure d'Antoine Léon, dont je vais beaucoup parler, puisqu'Antoine Léon est à la fois un psychologue, un conseiller d'orientation psychologue qui élabore une conception éducative de l'orientation dans le cadre, on peut dire, de la formation professionnelle. Mais il va aussi beaucoup réfléchir sur justement la relation, l'articulation problématique entre d'un côté formation générale et de l'autre apprentissage du métier. Dans les années 50, donc, on entre dans une période de transformation des structures scolaires, le paysage scolaire se complexifie. Bien entendu, jusqu'à la réforme de 1959, la structure générale reste la même, c'est-à-dire par ordre. Donc l'enseignement professionnel, bien que de plus en plus intégré au système entre guillemets scolaire, reste parallèle par rapport au système secondaire. Mais en tout cas, un certain nombre de transformations sont à l'œuvre. Alors, ces transformations, elles sont connues, mais je vais quand même les évoquer rapidement parce qu'elles sont importantes. C'est d'abord la première explosion scolaire, puisque on peut parler quand même d'une rupture par rapport à la situation scolaire antérieur à 1945, puisque dans les années 1950 se produisent de profondes transformations dans le paysage scolaire. Alors, la volonté réformatrice menée à partir de 1945, mais en fait dès la guerre, et qui se trouve son point d'aboutissement avec le plan Langevin-Wallon, va s'affirmer encore plus que dans la période précédente. Alors, je ne vais pas revenir sur l'historique des projets de réforme scolaire de l'entre-deux-guerres, parce que ce serait trop long, mais je peux en parler si vous voulez. Moi, j'ai juste insisté sur deux points qui me paraissent importants. Le premier point, c'est que à partir de 1945, pour faire simple, on a une réflexion qui vise à transformer la conception générale des finalités de l'école, qui désormais vont être de plus en plus articulées aux questions économiques et sociales. Avant 1945, pour faire simple, avant le plan Langevin-Wallon, même les promoteurs de la réforme scolaire utilisent que très ponctuellement et très rarement l'argument rationalisateur qui consiste à dire que l'école, c'est de la formation, et la formation, c'est de l'économie, donc il faut s'en préoccuper. L'économisation de l'enseignement fait de la politique publique de réforme de l'enseignement un rouage d'un processus de fonctionnalisation de l'économie dans une dimension sociale, aux objets donc de justice qui étaient portés par les promoteurs de la réforme avant 1945, s'ajoute désormais le souci de l'efficacité économique. Alors, parallèlement à ces nouvelles finalités, on voit émerger de nouveaux experts en matière scolaire, puisque là encore, avant 1945, les experts les plus consultés en matière scolaire par les ministres successifs sont très souvent des psychologues. Après 1945, on voit émerger de nouvelles figures, des économistes, des démographes, plus tard des sociologues, notamment avec la création de nouvelles institutions comme l'INED et l'INSEE, qui vont jouer donc un rôle important. L'autre aspect qu'il faut souligner, c'est que ce nouveau milieu réformateur entretient des relations étroites avec les réformateurs eux-mêmes, qui sont les administrateurs de l'éducation nationale, et qu'on a là l'émergence d'un milieu réformateur, si vous voulez, qui est en quelque sorte sur deux jambes, d'un côté l'expertise, de l'autre les administrateurs. Et il y a deux livres qui sont bien entendu très significatifs de ce nouveau état d'esprit, de ce nouveau milieu. C'est La montée des jeunes de Sauvy en 1959 et L'explosion scolaire de Huicrot en 1961, les deux auteurs représentant les deux faces, si je puis dire, de ce milieu. Alors, bien sûr, les années 50, c'est le moment aussi, deuxième transformation importante pour mon propos, l'augmentation de la scolarisation dans le premier cycle du secondaire. C'est le premier choc de l'explosion scolaire, un allongement des scolarisations qui va aller en s'accélérant dans les périodes postérieures. Les taux de scolarisation que vous avez là sur le graphique augmentent régulièrement, et cette augmentation s'explique essentiellement par un effet de scolarisation et pas par un effet démographique. La démographie fournira son principal effet à la fin des années 50. Donc c'est une transformation importante, puisqu'en 1959 on est donc à 50% de taux de scolarisation à 15 ans. C'est tout à fait nouveau par rapport à la période précédente. Cette scolarisation qui tend à s'élargir et qui se traduit par un allongement des scolarités se développe notamment dans les milieux populaires, qui vont se porter sur deux principaux types de formes de scolarité. D'une part, les cours complémentaires, et d'autre part, les centres d'apprentissage. Alors, on connaît bien l'histoire des centres d'apprentissage. Ils sont importants pour moi parce que ces centres d'apprentissage vont être notamment l'objet, les élèves scolarisés dans ces centres vont être l'objet des travaux des psychologues, et notamment d'Antoine Léon. Et on voit sur le graphique que vous avez ici que l'augmentation des effectifs sur la période est tout à fait considérable. On a bien donc une explosion des effectifs dans ces deux formes scolaires très différentes que sont les cours complémentaires, qui prolongent en fait l'école primaire. mais qui n'ont pas une forme, si vous voulez, expressément professionnelle au sens où ils ne coïncident pas exactement avec de l'enseignement professionnel, alors que les centres d'apprentissage, eux, ont une finalité tout à fait professionnelle. Donc avec les centres d'apprentissage, on a bien la mise en place d'une scolarisation des apprentissages professionnels qui rompt donc avec la période précédente et avec finalement le constat qui a été fait dans les années 30 notamment des limites du système mis en place par la loi Astier de 1919, qui est considérée comme la loi fondatrice, comme vous le savez, de l'enseignement professionnel en France. Ces transformations donc modifient le statut de l'enseignement professionnel qui tend à se développer comme un second degré ouvert aux enfants issus des catégories populaires, bien que, je le répète, ils soient encore séparés du reste du système. Et donc, par exemple, en 1946, Fernand Canonge, éminent personnage, donc professeur dans une école normale communiste, anciennement membre de la commission Vallon, qui dit que les centres d'apprentissage font partie du second degré. Cette création s'inscrit aussi dans une vieille revendication des promoteurs de l'enseignement technique et professionnel de du fameux apprentissage méthodique et complet qui a toujours été soutenu par la direction de l'enseignement technique, mais elle marque aussi d'une certaine manière l'extension de la forme scolaire aux enseignements professionnels. En adoptant une forme scolaire, les apprentissages ne peuvent plus se faire par la transmission simple des savoir-faire et par l'observation ou l'imitation, mais s'organisent désormais à partir d'un curricula impliquant des formalisations didactiques, pédagogiques et l'organisation d'un temps scolaire dévolu donc à cet enseignement, mais aussi de l'espace avec des salles de classe, des ateliers, des réfectoires, des internats. L'organisation d'un corps enseignant, pardon, avec ses concours, ses grades, ses spécialisations, qui traduisent donc le passage à une forme scolaire. Alors, ça se traduit par exemple par la multiplication des publications destinées aux enseignants de ces établissements nouveaux et qui visent donc à la mise en place justement de la forme scolaire professionnelle. Donc ici, j'ai juste pris un exemple, la revue Technique Arts Sciences, qui s'attache à diffuser les composantes de normes scolaires. Et bien, c'est quoi les composantes de la norme scolaire ? Ce sont les méthodes, ce sont les programmes appliqués donc à l'enseignement professionnel. Sur le modèle de ce qui se pratique dans l'enseignement secondaire et primaire, bien sûr, hein, où on a l'habitude depuis très longtemps de ces circulaires qui expliquent les programmes, comment il faut faire, etc. Donc en 1947, par exemple, un professeur de technologie de l'ENA de Paris préconise des principes pédagogiques à appliquer dans les leçons professionnelles. Donc même la catégorie de leçons est tout à fait intéressante à relever, hein, puisque c'est une catégorie qui vient en fait de l'enseignement général. En 1949, le chef des travaux de l'ENP de Nantes propose des réflexions sur la technologie générale et son enseignement. En 1949, la direction de l'enseignement technique diffuse une brochure intitulée « Des méthodes d'apprentissage dans l'enseignement technique ». Un inspecteur général souligne le grand mérite de l'enseignement technique qui veut concilier les nécessités professionnelles avec l'éducation populaire, de faire effort pour rendre possible le progrès indéfini de l'ouvrier dans les chefs des professions. Je reviendrai sur la dimension humanité technique tout à l'heure. En tout cas, ces centres d'apprentissage sont construits donc sur le modèle d'une forme scolaire avec programme, personnel enseignant, etc., etc. C'est précisément donc alors que se met en place cette scolarisation des apprentissages que les psychologues et notamment Antoine Léon vont pénétrer dans ces établissements pour mener leurs enquêtes. Bien entendu, l'allongement des scolarités la fréquence plus importante de ces scolarités suscite deux séries de questionnements qui vont être au cœur des travaux des psychologues et surtout d'Antoine Léon. Le premier questionnement porte sur la question des finalités de l'orientation. Jusque dans les années 1950, l'orientation a lieu essentiellement à la sortie de l'école primaire. On est là dans une nouvelle configuration, désormais le choix d'un métier va se décaler dans le temps pour progressivement devenir une question post-enseignement primaire. Et le second élément dont il faut parler, c'est celui, donc, je l'évoquais, des liens entre enseignement général et enseignement professionnel, des difficultés rencontrées par l'apprenti au cours de l'enseignement professionnel. Je le disais donc, la question de l'orientation va devenir une question importante et bien entendu, va donner lieu à de nouvelles réflexions. Alors, je vais revenir rapidement sur cette question de l'orientation, puisque, contrairement à une idée répandue, cette question ne fait pas l'unanimité. Je veux dire par là que cette question, en fait, elle traduit une conception, en tout cas, du rapport entre l'élève et son avenir, des choses différentes selon les auteurs. Alors, je ne reviens pas sur les origines historiques, hein, je vous ai juste mis quelques dates de repères, et puis la triple origine donc, de l'orientation en France et une photographie du bâtiment qui abrite l'INETOP, enfin aujourd'hui l'INETOP, à l'époque INOP, Institut National d'Orientation Professionnelle, donc créé en 1928, mais le bâtiment, lui, date de la fin des années 30, qui a été construit sous le Front Populaire, rue Gay-Lussac à Paris, hein, berceau de la profession. Alors, je ne reviens pas donc sur les origines de ce mouvement, et la forte emprise, la forte dimension psychologique et en réalité psychotechnique qui caractérise l'orientation en France jusque dans les années assez récentes, en fait, jusqu'aux années 60, pour faire simple. Donc la psychologie expérimentale qui va donner naissance au premier métier de psychologie en France, en fait. Bon. Donc je le disais, création 1928 de l'INETOP, qui symbolise donc les liens entre la psychologie et l'orientation, mais aussi qui symbolise les liens entre la psychologie, l'orientation et l'enseignement technique et professionnel, puisque l'orientation professionnelle sera, jusque dans les années 60, en réalité essentiellement une orientation liée à la direction de l'enseignement technique. Je vais faire une sorte de petit tableau de la situation de l'orientation en France à partir des débats de la commission Langevin-Vallon. Dont tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois. Alors, la question de l'orientation, elle est centrale dans le plan Langevin-Vallon, puisque ce plan vise à réorganiser l'ensemble du système, enfin, de créer, en fait, un système scolaire, et dans lequel, progressivement, les élèves devront faire des choix entre enseignement général, enseignement court, enseignement long, etc. Donc c'est véritablement un moment important. Alors Pierre Naville a cette formule que je trouve très bonne. C'est le moment où en fait on essaie de concevoir un système unifié du primaire au supérieur et de considérer l'école elle-même comme un instrument d'orientation. Pour tout le monde, c'est une évidence, l'école sert à orienter. Mais on va voir qu'en réalité, y a quand même des petits désaccords entre les membres de cette commission. Donc effectivement, il y a au moins trois conceptions de l'orientation. Au passage, elles existent toujours de nos jours. Hein. C'est pas de l'histoire, hein, en fait, même si ça en a l'air. Alors, la première conception, c'est celle d'Henri Pierron, bien sûr, qui est membre de la commission, forcément, avec son ami Vallon, son camarade de classe. La position de Pierron, c'est la position qu'il a toujours défendue, c'est-à-dire que on peut attendre jusqu'à 11 ans pour faire des tests psychotechniques parce que avant 11 ans les tests ne sont pas sûrs, donc à partir de 11 ans on peut faire des choses sérieuses. Pierron distingue une orientation éducative qu'il définit comme l'aptitude à profiter d'enseignements d'une certaine nature et d'un certain niveau, et l'orientation professionnelle qui doit être une préparation éducative au métier. Il introduit une nuance importante puisque pour lui l'orientation doit consister à embrancher l'élève dans une voie qui comporte des catégories de professions entièrement différentes dans un cas ou dans l'autre. Conformément donc aux conceptions scientifiques de Pierron, les tests vont analyser des aptitudes séparées les unes des autres. Et c'est à partir de ces différents résultats que l'on pourra donner un conseil aux élèves. Donc pour lui, les aptitudes sont en fait des dispositions naturelles, des tendances en quelque sorte incorporée par les individus. Et le travail du pédagogue ou du psychologue est de les identifier. Et donc pour lui, orientation professionnelle, orientation scolaire, ben mon Dieu, il n'y a pas grande différence, c'est juste un décalage dans le temps. Hein. Bon. La seconde position est celle d'un autre psychologue dont je vais beaucoup parler après, qui est Henri Vallon. Henri Vallon, c'est le successeur de Langevin comme président de la commission, et c'est lui qui rendra le rapport final. Alors pour lui, à l'inverse, orientation scolaire, orientation professionnelle, ça n'a strictement rien à voir. Il y a trois idées importantes que Vallon développe dans les discussions de la commission. D'abord, faire le lien entre la psychologie et l'école. C'est la première chose qu'il développe. La seconde idée, c'est que Vallon est très critique à l'égard de la psychotechnique, qu'il considère comme étant peu fiable. Et enfin, contrairement à l'orientation professionnelle qui cherche à mettre des relations en relation des aptitudes et des professions, l'orientation scolaire s'inscrit dans une approche éducative et pédagogique. Donc pour lui, la priorité, ce n'est pas de faire des tests, la priorité, c'est de faire rentrer le psychologue dans l'école, lequel psychologue va jouer le rôle en quelque sorte d'évaluateur et de conseiller des pratiques pédagogiques mises en œuvre par les instituteurs. D'ailleurs, il commence déjà à mettre en place les premiers psychologues scolaires dès 1945 pendant les travaux de la commission. La troisième position est celle défendue par un autre personnage important dans le milieu des réformateurs scolaires, qui est Roger Gall. Roger Gall, donc, qui a une position encore différente, qui lui est plutôt quelqu'un qui est du côté de l'expérimentation, puisqu'il a expérimenté les classes d'orientation de Jean Zay, mais aussi les classes nouvelles de Mono après 1945, dans les années 50. Alors, il accorde aussi une place importante à la question de la psychologie, mais plutôt à une psychopédagogie, l'idée étant qu'elle doit fournir des outils à l'orientation scolaire, et envisager en fait une connaissance de ce qu'il appelle l'individualité globale de l'élève, donc aux antipodes de la position de Pierron. Donc il préconise plutôt un travail de nature pédagogique pouvant s'appuyer sur l'aide d'un psychologue, mais en aucun cas des techniques psychotechniques défendues par Pierron. Et donc pour lui, c'est plutôt l'expérimentation pédagogique qui doit permettre d'orienter progressivement les élèves. Alors, ces positions, elles se retrouvent dans le plan final Langevin-Vallon, mais à des degrés divers, puisqu'en fait, la position de Pierron, elle ne sera retenue que pour les élèves qui seront destinés à un enseignement professionnel court. Je l'ai dit, Vallon, lui, va mettre en place les psychologues scolaires, à partir des années 50. En ce qui concerne Roger Gall, c'est tout ce qui touche à l'idée d'expérimentation pédagogique qui sera également utilisée dans le plan, repris en tout cas. Alors, troisième dimension concernant cette longue sorte d'introduction sur ce que va proposer ensuite Antoine Léon, la question des inégalités. Alors, la question des inégalités à l'école ou devant l'école, donc la citation « Les anneaux d'une même chaîne d'inégalités », c'est une citation de Antoine Léon. Là encore, je ne vais pas revenir sur l'entre-deux-guerres. En tout cas, pendant très longtemps, les promoteurs de la réforme démocratique de l'école sont en fait favorables à ce qu'on appelle la démocratisation de la sélection scolaire. C'est-à-dire l'idée qu'il faut faire monter vers le lycée, le baccalauréat, les études longues, les meilleurs élèves, y compris les élèves des milieux populaires. Mais il ne s'agit pas de faire monter l'intégralité d'une classe d'âge. Et donc, les historiens qui ont travaillé sur ces questions considèrent que dans les années 50, cette conception se fissure d'abord par la découverte, en quelque sorte, du retard scolaire, dans les années 50, pour faire simple, et dans un second temps, de l'échec scolaire, mais qui sera plutôt une expression qu'on verra fleurir à partir des années 60. Alors effectivement, quand on regarde les études qui sont menées dans les années 50 par les démographes sur la question, ils sont encore dans l'optique démocratisation de la sélection scolaire. Ils se concentrent par exemple sur le paradoxe des bons élèves du primaire qui ne rentrent pas en sixième et qui donc n'entament pas des études longues. La question des différences de réussite scolaire par origine sociale n'apparaît jamais en fait comme une préoccupation centrale. Et donc les arguments qui sont souvent avancés sont liés à des facteurs économiques pour expliquer les différences de scolarité. Alors les psychologues reprennent en partie cette approche. Hein. Par exemple, ils s'interrogent sur l'échec du bon élève aussi, le paradoxe de l'échec du bon élève. En 1954, René Zazo, par exemple, analyse l'inégalité des enfants devant l'école, mais il n'utilise comme critère que l'âge, et pas d'autres critères. Donc il conteste, bien sûr, les inégalités qui seraient naturelles, en quelque sorte, d'intelligence entre élèves. Ça ne veut rien dire pour lui, bien sûr. Mais au contraire, l'intelligence est répartie de manière homogène dans tous les milieux sociaux, et donc, a priori, il n'y a pas besoin de s'interroger sur le lien entre réussite scolaire et origine sociale. C'est la marque de la plupart des enquêtes qui sont menées dans les années 50 par ces psychologues, notamment autour de Zazo. Alors pourtant, quand on regarde bien, on voit quand même qu'il y a l'émergence de quand même questionnements tout à fait particuliers. Par exemple, en 1950, la revue Enfance publie un article d'un chercheur américain qui propose, lui au contraire, d'analyser les inégalités scolaires comme étant des inégalités d'origine sociale, en pointant notamment les effets du système scolaire sur la scolarisation, bien sûr, en parlant de ruban transporteur du système éducatif qui abandonne les enfants des classes inférieures au début de sa course pour hisser les enfants des classes supérieures beaucoup plus haut et les mener donc à leur à leur majorité. Et pourtant, cette idée qui apparaît dans ce texte et dans cette revue n'est pas véritablement exploitée par les psychologues. De la même manière, en 1956, un psychologue parle d'hérédité scolaire pour qualifier les choix qui sont faits par certaines familles par rapport à d'autres, mais l'expression n'est pas véritablement exploitée par le même psychologue. Alors, on peut trouver bien sûr plusieurs explications à ce phénomène. Tout simplement le fait que, le processus d'allongement des études en est à ses débuts, et que finalement, il reste encore logique que des différences de scolarisation aussi importantes interviennent à l'issue de l'école primaire. Et que cette situation n'est à cette époque pas encore considérée comme un scandale, comme elle sera ensuite. Il y a d'autres raisons plus fondamentales, parce que les psychologues font quand même des observations différentes des démographes. J'en ai relevé deux. D'abord, les normes socioculturelles. Les psychologues constatent que les normes socioculturelles selon les milieux sociaux et selon les familles ne sont pas identiques. Lorsque les enquêtes s'étonnent que les enfants des milieux populaires, pourtant bons élèves, ne poursuivent pas leurs études, les psychologues répondent que finalement on a là des traits de comportement qui sont liés à des normes socioculturelles et non pas à des facteurs qui sont des facteurs économiques. Et donc ils suggèrent que la recherche se tourne vers ces différences de normes qui existent selon les différents milieux. Normes culturelles qui sont transmises pas simplement par la famille mais par tout un environnement. Et donc l'étude des rapports différenciés par exemple des familles à l'égard des scolarités. Il y a une autre observation qui est faite qui concerne précisément le rôle de la famille, non pas la famille au sens du mot tel que les démographes l'utilisent, mais au sens que les psychologues donnent à ce mot, parce que pour les psychologues, le comportement scolaire de l'enfant et les conditions de vie familiale ne sont pas suffisantes pour expliquer ces différences. Et que la famille intervient aussi par son attitude à l'égard de l'école, de la culture générale, Excusez-moi, bien sûr, j'ai oublié d'éteindre. Voilà. Et que donc il y a là aussi des pistes de recherche qui s'appuient en fait sur les positions d'Henri Vallon sur la question de la famille, si je pourrais y revenir si vous voulez. Alors, tout ça pour arriver donc tout ça pour dire que c'est dans ce contexte que Antoine Léon va mener ses expérimentations dans le cadre de l'enseignement professionnel. Alors, je vais présenter rapidement Antoine Léon, au travers de quelques éléments biographiques. Alors, Antoine Léon, est un personnage qu'on peut présenter autour de trois mots, marxisme, psychologie et éducation, pour vraiment faire simple. Il est issu d'un milieu populaire d'Algérie très pauvre. Il commence sa carrière comme instituteur, la guerre venant un peu perturber cette carrière. Il est enrôlé en 1943. Ensuite, il entre au Parti communiste en 1944. Et à partir de 1946, il est élève à l'INETOP. Alors, Antoine Léon est un personnage donc intéressant parce qu'il cultive un petit peu, si l'on peut dire, la transgression des limites et des cadres. Puisque si on regarde sa production, sa thèse, en fait, se décompose en deux ensembles, puisque à l'époque c'était deux parties. Donc l'une sur laquelle je vais m'attarder, formation générale et apprentissage du métier en 1965, qui est donc une thèse, on dirait, on peut faire simple, de psychopédagogie, et de l'autre, la Révolution française et l'éducation technique, publiée en 1968. Donc deux axes qu'il va constamment conserver, psychopédagogie d'un côté, histoire de l'école, de l'éducation de l'autre. Donc quelques autres titres encore, psychopédagogie des adultes en 1971, puisque à partir de la fin des années 60, il va s'intéresser de plus en plus à l'éducation des adultes, à la formation des adultes, pardon, et à l'éducation permanente. C'est un de ceux aussi qui vont promouvoir dans les années dès les années 60. L'histoire de l'éducation et notamment l'histoire de l'éducation technique. Et à la fin de sa vie, donc, cet ouvrage un petit peu, ça a un peu parlé de son enfance, j'imagine, Colonisation, enseignement et éducation, donc en 1991, qui est donc un ouvrage tout à fait novateur à l'époque, puisqu'il porte des interrogations sur l'école dans le système colonial. Alors, ce personnage, ce chercheur, Antoine Léon, est le premier à élaborer une conception éducative de l'orientation dont on peut situer la naissance entre 1947 et 1957, période au cours de laquelle il est chercheur au centre de recherche de l'INETOP. Alors, plusieurs éléments expliquent pourquoi il va s'intéresser à ces questions. D'abord, je le disais, ses origines sociales et professionnelles, instituteur de formation, il se reconvertit donc vers le métier de conseiller d'orientation, ce qui est le cas à l'époque de pas mal d'instituteurs, puisque les instituteurs bénéficient d'une bourse particulière, pour faire simple, pour pouvoir suivre en étant rémunéré les cours de l'INETOP et devenir conseiller d'orientation. C'était une époque où on en recrutait pas mal. Et donc il apporte dans le milieu de l'orientation des préoccupations, sa culture professionnelle d'instituteur. Et déjà dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, les instituteurs avaient investi la question de l'orientation professionnelle. Le second élément qu'il faut rappeler, c'est la double filiation théorique de Léon, le marxisme et Henri Vallon. Henri Vallon, c'est son maître à penser du côté de la psychologie, si je puis dire, Henri Vallon étant lui-même marxiste et membre du Parti communiste. En tout cas, la psychologie vallonienne va lui servir de base théorique pour ses recherches. Donc, Antoine Léon va rentrer dans les établissements scolaires, tout simplement parce que à l'époque, les conseillers d'orientation fréquentent assidûment ces établissements pour proposer l'orientation des élèves. Comme je disais, la conception qu'il va développer de l'orientation est très différente de celle promue par Henri Pierron et par l'INETOP. Notamment parce que, comme Vallon, il est très critique de la notion d'aptitude. Alors, il n'est pas le seul, en fait, à critiquer la notion d'aptitude, hein, puisque, d'autres chercheurs, d'autres intellectuels font de même, dont le plus célèbre, c'est Pierre Naville, dans Théorie de l'orientation professionnelle en 1945, mais on peut ajouter celle de Jean-Marie Faverges, qui, lui, est du côté de la psychologie du travail, de l'ergonomie, et qui, lui, fait aussi une critique radicale de cette catégorie qu'il trouve particulièrement floue et dangereuse. Alors, les psychologues qui arrivent dans les centres d'apprentissage et les cours complémentaires dans les années 50 mobilisent des techniques nouvelles d'enquête. Comme je le disais, la psychologie à l'époque, notamment l'INETA, participe aux opérations de validation des recrutements des apprentis, et puis même toute une série d'enquêtes sur d'autres aspects. Donc la psychométrie est mobilisée, mais de nouvelles techniques comme les méthodes statistiques qui sont utilisées, la fameuse analyse factorielle, mais aussi des techniques d'inspiration clinique, c'est-à-dire le recours à l'entretien. Donc les années 50, c'est du point de vue méthodologique une période de décloisonnement, fortement encouragée d'ailleurs par Henri Vallon, et qui va donner naissance à des travaux dans les années 60 de psychosociologie, notamment sur les adolescents ou bien encore sur les apprentis. Alors, Léon participe de ce décloisonnement puisqu'il promeut la nécessité d'une collaboration entre l'approche expérimentale et l'approche clinique. Il souligne aussi la difficulté de s'insérer dans un milieu professionnel dans une position d'enquêteur, puisqu'il faut, comme il le dit, se conformer aux règles en usage dans le milieu prospecté. Et il s'intègre totalement dans le milieu prospecté en question, puisque il va assurer des cours, il va participer à la vie quotidienne de l'établissement, il va aller même jusqu'à apprendre le métier de fraiseur jusqu'au niveau de CAP en 1955, au moment où il étudie justement le comportement des apprentis dans l'activité de fraisage. Alors, qu'est-ce que j'ai après ? Non, je suis allé trop vite là. Ah, il manque un titre. Bon, bah, tant pis. Je vous en parlerai de ça après. Alors, au cœur des réflexions de Léon, il y a l'idée des interactions, puisque c'est au cours de cette expérimentation dans les cours complémentaires, les classes de fin d'études primaires, qu'il va élaborer donc une nouvelle conception de l'orientation. Préparation du choix professionnel, sélection à l'entrée des établissements d'enseignement professionnel, choix professionnel en lui-même, inadaptation à l'apprentissage, dosimologie des examens professionnels. Donc une palette très large d'enquêtes destinées donc à mieux comprendre ce qui se joue à la fois pour l'orientation, mais aussi, comme on verra, pour la formation, l'apprentissage en lui-même. Son idée, c'est que l'orientation doit être éducative et intégrée à l'enseignement selon deux types d'activités. Les activités éducatives qui favorisent la connaissance des milieux professionnels à l'école et la compréhension des processus en cours dans les apprentissages professionnels d'autre part. Donc, les opérations d'orientation ne se déroulent plus à l'extérieur des établissements dans des centres séparés. Avec Léon, on peut même parler de scolarisation de l'orientation au sens où elle se déroule à l'intérieur même des établissements et mieux encore à l'intérieur même des enseignements qui sont proposés aux élèves. Donc la formation professionnelle va occuper une place très importante, information professionnelle qu'il entend bien sûr dans un sens très large. Parce que dans sa conception, bien sûr, en héritier d'Henri Vallon, il s'agit de mobiliser aussi les méthodes dites actives et donc de rendre acteurs les élèves dans les processus pédagogiques par lesquels ils vont progressivement pouvoir avoir une meilleure connaissance de l'horizon professionnel qui pourrait être le leur. Donc la notion de participation active de l'enfant à la construction de son avenir est centrale et caractérise cette conception de l'orientation. Elle s'appuie donc sur le caractère historique, évolutif des conduites individuelles, sur leur plasticité, sur le rôle décisif joué par les milieux formateurs dans leur élaboration. Les milieux formateurs, c'est-à-dire la famille, le milieu social, le quartier, mais aussi l'école. Bref, tout ce qui va, dans un rapport dialectique, contribuer à construire l'enfant dans sa dimension psychologique et sociale. Bon, je vous ai mis un exemple, par exemple, c'est le cas de le dire, des causeries qui sont proposées par Antoine Léon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que il cherche en tout cas à mêler dans un ensemble cohérent et homogène à la fois la dimension technique du métier, c'est-à-dire de l'apprentissage en lui-même. Hein, c'est quoi être boulanger, c'est quoi être fraiseur, par exemple, en quoi ça consiste, mais aussi tout ce qui va. Qui est une composante du métier, mais qui est la plupart du temps, qui n'est pas la plupart du temps abordée, notamment par les conseillers d'orientation, c'est-à-dire l'ensemble que constitue ce milieu professionnel, sa dimension sociale, sa dimension politique, sa dimension économique. Donc il vise à avoir une connaissance effectivement la plus large possible de cette dimension. Alors, bien entendu, il n'est pas naïf non plus, et donc il a conscience des limites que peut avoir ce type d'action, puisque on parle d'action éducative, par définition, il y a forcément des limites, et donc il sait le poids des représentations des élèves, qui sont façonnés par de multiples influences, l'origine sociale de l'individu, son attitude, mais aussi le fonctionnement de l'école. Et ces limites sont très présentes dans les différents questionnaires qu'il propose aux apprentis. Alors, les positions défendues par Léon ne sont pas étrangères à ses positions politiques, hein, parce que pour lui, il s'agit de promouvoir un choix professionnel libre, à une époque où on parle essentiellement d'enfants issus des catégories populaires, justement au profit de ces enfants. Donc, la liberté se décline en deux capacités. D'une part, le libre choix qui doit s'appuyer sur une connaissance objective des activités professionnelles offertes à l'individu, et d'autre part, la connaissance technique, économique et politique du développement des métiers. Donc, cette conception, elle va aussi déboucher sur la recherche, hein, très en vogue à l'époque, de ces humanités techniques. Alors là, je vous ai mis un exemple, j'aurais dû m'arrêter dessus, d'analyse donc de décomposition des différentes spécialités à l'intérieur d'un même corps de métier qui doivent être donc travaillées avec les élèves. Et ici, ce sont les différentes déclinaisons du métier de l'électricité et de la radio. Des métiers, pardon. Alors, effectivement, l'orientation éducative de Léon, pose aussi la question des rapports entre enseignement professionnel et enseignement général, puisque l'ambition de cette éducation à l'orientation est de construire une connaissance qui soit à la fois technique, mais aussi sociale, pour faire simple, des métiers. Et donc, il va aussi s'intéresser aux enjeux pédagogiques de la scolarisation des apprentissages. Logiquement, le développement de l'enseignement professionnel dans un cadre scolarisé pose cette question des rapports entre ces deux types d'enseignement. Et c'est précisément ce qui va occuper Antoine Léon dans sa thèse, dans une dimension donc psychopédagogique, la question des relations entre matière générale et discipline pratique, l'interrogation sur les formes scolaires d'initiation professionnelle. Alors, cette question, bien sûr, elle s'inscrit dans un cadre plus général qui est celle d'un grand thème qui est développé dans les années 50, qui sont les fameuses humanités techniques, sorte d'horizon promis, mais on va le voir avec Léon, qui sont quand même un horizon un peu difficile à atteindre. Alors, c'est un thème qui est donc, l'expression revient à Roger Gall dont je parlais tout à l'heure, et c'est une thématique qui va être largement reprise comme un thème de légitimation aussi de l'enseignement professionnel vis-à-vis des autres formes d'enseignement, puisque même dans la loi organisant les centres d'apprentissage en 1949, il est précisé que la formation comprend l'enseignement technique, théorique et pratique d'une profession déterminée et un enseignement général comportant la formation physique, intellectuelle, morale et technique des jeunes gens. Alors, conception donc très large de ce que doit être cette formation dans les centres d'apprentissage, puisqu'elle est à la fois la formation de l'individu, la formation du citoyen et la formation de l'ouvrier, on pourrait dire, tellement large d'ailleurs que on a du mal parfois à s'y repérer dans les mots qui sont, enfin les définitions qui sont données, hein, puisque culture technique, éducation populaire, culture ouvrière. En tout cas, l'idée que l'enseignement professionnel doit conquérir en quelque sorte sa dignité égale aux humanités traditionnelles, et que donc il y a là un projet tout à fait novateur, qu'il faut bien entendu soutenir. En tout cas, c'est comme ça que les choses sont présentées. Alors, ces cultures, cet humanisme technique, lorsqu'Antoine Léon fait ses enquêtes, il explique qu'en fait, ce qu'il observe surtout, c'est le décalage plus ou moins important, quand même, entre les réponses des élèves et les objectifs exprimés dans les revues pédagogiques. Effectivement, s'agissant des représentations des élèves à propos des enseignements généraux, il relève surtout que, en plus des exigences liées aux examens, les élèves ont trois préoccupations dans leur rapport à cet enseignement général: l'aspiration à progresser dans la hiérarchie professionnelle, la communication avec autrui et, parfois, dans de rares cas, la préparation des activités de loisirs. Et il insiste sur, les faibles représentations en termes de développement personnel, ce qui va un peu à l'encontre de la thématique culturelle qui associe, de développement culturel associé au thème des humanités techniques. Dans ces enquêtes, il montre aussi que, bien entendu, cette difficulté à donner corps aux humanités techniques est liée, bien sûr, au propre comportement du corps enseignant dans ces établissements, puisque ce corps enseignant est caractérisé par le fait qu'il est divisé en différents corps selon les spécialités, que donc il y a un corps à part pour l'enseignement général, hein, des instituteurs, et que donc il observe, lui, des conflits latents ou manifestes qui résultent, au sein de ce corps enseignant, qui résultent de la disparité des origines et des formations, et qui, bien entendu, se répercutent dans les conduites qu'il identifie chez les élèves. Et il montre, par exemple, dans une enquête qu'il a menée en 1959 chez des stagiaires, que les professeurs de l'enseignement technique, par exemple, s'ils reconnaissent, l'importance de la culture, entre guillemets, générale, ils expliquent aussi qu'ils ne comprennent pas et ne voient pas très bien comment ils peuvent, en quelque sorte, participer à la mise en œuvre de cette culture dans leur enseignement. Donc, à ses yeux, cet humanisme technique reste surtout théorique, plus qu'une réalité, et surtout interroge ce qui lui l'intéresse le plus, c'est-à-dire comment se met en place la relation entre enseignement général et enseignement technique. Est-ce que ce sont deux choses juxtaposées ou est-ce que ce sont deux choses articulées? Et en tant que psychologue, il va conclure à l'idée que il y a bien l'enseignement général dans l'enseignement professionnel, dans l'apprentissage du métier, mais que ce n'est pas là où en fait certains voudraient le voir. Et donc, recherchant les mécanismes d'acquisition des premiers éléments d'un métier chez un adolescent, il va donc revenir sur l'opposition entre forme intellectuelle et forme manuelle du travail. Et donc s'interroger sur la mise en œuvre des connaissances scolaires dans l'activité même d'apprentissage du métier par les apprentis. Et donc, il étudie les travaux d'élèves en trois stages d'initiation, dans des ateliers d'ajustage de forge et de soudure durant la première année d'apprentissage. Puis il va travailler spécifiquement sur des apprentis en atelier de fraisage. Léon donc constate que les erreurs liées à un processus de généralisation active sont constatables par certains apprentis et qu'à la suite de ces erreurs, ils demandent aux apprentis d'expliquer pourquoi cette erreur. Pour répondre à cette question, il va utiliser en fait deux types de méthodes, une méthode globale intuitive et une méthode recourant à l'enseignement général. Léon postule, mais aussi constate, qu'il y a en fait deux types d'acquisition des connaissances des objets techniques. L'une qu'il intitule mineure intuitive et qui ressort davantage de l'expérience personnelle de l'élève, et l'autre qui relève de l'explication rationnelle et qui donc est davantage du côté scolaire. Il constate qu'en réalité, ces deux types de connaissances sont mises en œuvre dans le travail effectif des apprentis et qu'elles ne s'opposent pas, mais elles ne s'allient pas non plus spontanément. Elles se répondent en quelque sorte, s'influencent l'une l'autre, et que c'est là, bien entendu, que doit intervenir l'action de l'éducateur. Donc, transmission des savoirs peut venir étoffer une action en profondeur, destinée d'une part à favoriser l'acquisition des méthodes d'exploration, d'autre part à faire correspondre à la mobilité des réalités professionnelles une certaine plasticité des représentations et des attitudes. En fait, on retrouve ici la conception, les conceptions de Vallon sur le rapport théorie-technique-pratique. Pour Vallon, il ne s'agit pas là d'un principe de différenciation scolaire entre les élèves, entre les enfants, mais au contraire, la possibilité d'organiser pour chacun d'eux toutes les formes possibles de leur activité, de la manuelle comme de l'intellectuelle, de la manipulatrice à la conceptuelle. Donc les activités techniques, loin en fait de séparer intelligence de la main et intelligence du cerveau, sont en fait des vecteurs de médiation vers les connaissances générales. On retrouve ici bien sûr les idées de d'éducation active. Donc il n'y a pas nécessairement d'opposition entre formation générale et apprentissage du métier. Et dans cette optique, toute activité pratique, technique, professionnelle, même la plus simple, est un facteur d'acquisition de connaissances générales par les enfants. Alors, tout ça, bien entendu, sous le contrôle scientifique du psychologue, hein, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, il veut promouvoir la psychopédagogie, donc l'intervention du psychologue qui est là pour mettre en œuvre des méthodologies d'évaluation qui permettent de corriger au fur et à mesure des activités proposées aux élèves tel ou tel comportement, telle ou telle conduite qui pourrait induire les élèves, les mener dans une direction néfaste. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça va faire trop long. Conclure, hein, deux choses. La première chose, c'est que on sait qu'en France, le modèle scolaire, même plus que forme scolaire, on pourrait dire le modèle scolaire exerce une influence considérable, et que les débats scolaires, par exemple, tournent la plupart du temps autour de deux pôles, l'école élémentaire et l'école secondaire, hein, l'école moyenne avec le collège ou le lycée. Pourtant, on peut voir avec cet exemple que la forme scolaire s'est bien étendue au-delà, parfois au détriment d'autres formes d'apprentissage. Et de ce point de vue-là, les observations de Léon sont intéressantes puisqu'il se situe à une période où on peut parler d'un basculement vers la scolarisation généralisée. Comme je l'ai dit, il y a deux choses qui me paraissent importantes. D'abord, l'articulation entre orientation et éducation, puisque bien que depuis 1996, l'éducation et l'orientation est devenue, par la petite porte quand même, la politique officielle de l'éducation nationale, force est de constater que les pratiques sont loin de correspondre au discours officiel. Travailler sur les objets et les milieux de formation conçus comme des produits socio-historiques, que préconisaient à la fois Antoine Léon et Henri Vallon, constitue pourtant un axe de développement de ces pratiques. Léon d'ailleurs mettait en garde contre une tendance très contemporaine, hein, mais qu'il constatait déjà à l'époque, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'idéal chimérique d'une information intégrale, et invitait plutôt à développer chez l'enfant une curiosité et une méthode d'auto-information. La seconde conclusion, c'est celle à laquelle je suis arrivé concernant les conceptions de Vallon sur l'objet technique, médiation vers la connaissance, qui est au centre donc des réflexions de Antoine Léon, et qui envisage l'éducation depuis l'école primaire jusqu'à la formation continue des adultes sous la forme d'une éducation permanente. Et donc, le dépassement de la division formation générale, formation professionnelle, qui conduit au dépassement des divisions d'âge, de l'opposition travail-loisir, de l'opposition travail intellectuel-travail manuel, et conformément à ces conceptions politiques, un programme, en quelque sorte, de réforme sociale profonde. Voilà. Je vous remercie.